John Linden en direct du studio d'AFDV Afrique à Washington. Le Monde aujourd'hui, édition de ce lundi 2 septembre 2024. À la une ce soir, tentative d'évasion à la prison centrale de Makala en République démocratique du Congo. Les services de sécurité s'activaient ce lundi selon le porte-parole du gouvernement pour restaurer l'ordre et la sécurité sur place. Près de 20 000 migrants d'Afrique subsaharienne ont été refoulés par l'Algérie vers le Niger dans des conditions souvent brutales, alerte une ONG basée à Niamey. La pression monte sur Benjamin Netanyahou pour obtenir la libération des otages retenus à Gaza. La plus puissante centrale syndicale du pays a appelé à un mouvement de grève ce lundi, un mouvement dont un tribunal a ordonné la fin. La Chine accueille en grande pompe dès ce lundi des dirigeants africains. C'est dans le cadre du forum de coopération Chine-Afrique qui se tient jusqu'à vendredi. Et dans 10 minutes, l'économie et le sport. Mais tout d'abord, le journal. Et d'abord, la République démocratique du Congo, où des détenus ont tenté dans la nuit de dimanche à lundi de s'évader de la plus grande prison du pays à Kinshasa dans des circonstances qui restent encore floues, selon le porte-parole du gouvernement. Les précisions de Yakuba Ouidraogo.
D'après le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, il s'agit d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les services de sécurité sont sur place pour restaurer l'ordre et la sécurité. En fin de matinée, les rues menant à la prison de Makala étaient bouclées par la police. Depuis Pékin, où il fait partie de la délégation officielle accompagnant le président Félix Tshisekedi au sommet Chine-Afrique, Muyaya a assuré à la télévision nationale que la situation est sous contrôle. Des témoins disent avoir entendu des coups de feu, mais les autorités n'ont donné aucun bilan ou aucune information sur des détenus qui auraient réussi à prendre la fuite. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a déclaré que des enquêtes sont en cours pour identifier et sanctionner les commanditaires de ces actes, annonçant la suspension jusqu'à nouvel ordre des transferts de détenus vers le centre pénitentiaire. La prison de Makala, d'une capacité de 1 500 places, héberge entre 14 000 et 15 000 prisonniers, selon les statistiques officielles. En 2017, une attaque par des hommes armés avait conduit à l'évasion de plus de 4 000 détenus.
Les groupes rebelles nigériens du Front patriotique de libération et malien du cadre stratégique et permanent se sont rencontrés fin août dans le nord du Mali pour renforcer leurs relations. C'est ce qu'indique ce lundi le CSP. Les deux groupes luttent contre les régimes militaires au pouvoir à Bamako et Niamey, alliés au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle confédération constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'AES a tourné le dos à la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et s'est rapprochée politiquement et militairement de la Russie. L'Algérie a refoulé depuis janvier vers le Niger voisin près de 20 000 migrants subsahariens, dont des femmes et des enfants, souvent dans des conditions brutales. C'est ce que dénonce dans un rapport l'ONG locale Alarm Faune Sahara. Alexandrine Hollion.
L'organisation qui secourt des migrants dans le désert entre l'Algérie et le Niger a recensé exactement 19 798 personnes refoulées de janvier 2024 à août 2024, selon son responsable de la communication Mokhtar Dan Yai. Ces migrants sont expulsés dans des conditions brutales, avec dans le pire des cas des conséquences mortelles, dénonce Alarm Faune Sahara dans un rapport publié fin août. Selon l'ONG, les migrants sont arrêtés lors des rafles en ville, au niveau de leur maison, de leur lieu de travail ou à la frontière tunisienne et sont regroupés à Tamaracet, dans le sud de l'Algérie, avant d'être acheminés dans des camions vers le Niger. Certains sont débarqués au point zéro, zone désertique, délimitant la frontière entre les deux pays et doivent parcourir à pied 15 000 km pour atteindre Assamaka dans des conditions climatiques extrêmes. Depuis 2014, des migrants irréguliers nigériens, mais aussi d'autres pays africains, sont régulièrement refoulés d'Algérie, point de transit vers l'Europe. En novembre 2023, le régime militaire nigérien a abrogé une loi de 2015 criminalisant le trafic des migrants.
En rapport avec les migrants, un ex-responsable des gardes-côtes en Libye, Abdal Rahman Milad, connu pour avoir été un baron local de trafic des migrants, a été abattu dimanche à l'ouest de Tripoli, selon des déclarations de responsables à des médias locaux. Le major Milad, 34 ans, a été tué dans une embuscade par des assaillants non identifiés à Sayad, à 25 kilomètres à l'ouest de Tripoli. Personnalité controversée, Al-Bidja avait, selon des médias italiens et libyens, participé en 2017 aux côtés d'autres passeurs à des pourparlers avec des responsables italiens ayant permis une baisse significative du nombre des départs depuis les côtes libyennes vers l'Italie. Il avait été arrêté par les autorités libyennes en octobre 2020 avant d'être relâché en avril 2021. On reste dans la région en Tunisie, où l'autorité électorale a décidé ce lundi de ne retenir que 3 candidats à la présidentielle du 6 octobre, dont le président sortant Kais Saied. 3 autres postulants sont exclus alors qu'ils avaient été réadmis par le tribunal administratif la semaine passée. Mouamadou Mfa.
Mis à part le président sortant, les 2 autres candidats sont Zouer Magzaoui, un ancien député de la gauche panarabe, et Ayachi Zamel, un industriel peu connu, chef d'un petit parti libéral. La semaine passée, le tribunal administratif réuni en appel avait accepté à la surprise générale les recours de 3 candidats considérés comme des concurrents sérieux du président Kais Saied. Les candidats réadmis étaient Abdellatif Mekki, un ancien dirigeant du mouvement islamo-conservateur Ennahda, Monder Zenaidi, un ancien ministre du régime Ben Ali, et Imed Daimi, un conseiller de l'ex-président Moncef Marzouki, également proche d'Ennahda. Le tribunal administratif n'a pas communiqué officiellement ses décisions à l'autorité électorale dans le délai prévu de 48 heures comme prévoit la loi, a annoncé le chef de l'autorité électorale, ici, Farouk Bouasker, pour justifier l'exclusion de ces 3 candidats. La liste annoncée le 10 août est définitive et non sujette à un quelconque recours, a ajouté M. Bouasker dans une déclaration retransmise à la télévision nationale.
Les 95 Libyens expulsés d'Afrique du Sud le mois dernier suivaient une véritable formation militaire pour la faction libyenne de Khalifa Haftar qui contrôle l'Est riche en pétrole de ce pays instable et ne s'entraînait pas à devenir des agents de sécurité comme l'a prétendu Pretoria. C'est ce que rapportent les journaux Rapport et City Press. Le quotidien de Rapport a publié dimanche des photos et une vidéo fournie par ses sources qu'il n'a pas identifiées montrant des hommes en tenue de camouflage qui se livrent à des exercices militaires.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plusieurs dirigeants africains sont arrivés en Chine pour un sommet destiné à approfondir les liens avec un continent où les importants prêts de Pékin ont permis la construction d'innombrables infrastructures. Ce sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique, prévu jusqu'à vendredi, et qui sera, selon le géant asiatique, le plus grand événement diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie de COVID-19. Les entreprises chinoises ont signé des contrats d'une valeur cumulée de plus de 700 milliards de dollars entre 2013 et 2023, selon le ministère chinois du commerce. Pékin a par ailleurs promis de renforcer son projet des nouvelles routes de la soie. Le président américain Joe Biden estime que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'en fait pas assez pour parvenir à un accord en vue de la libération des otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Une déclaration faite ce lundi alors qu'en Israël, la pression monte sur le gouvernement après la découverte de 6 corps d'otages. Abdourahmane Dia.
Joe Biden s'exprimait juste avant de rencontrer les négociateurs américains travaillant à la libération des otages dans la guerre entre Israël et le Hamas après la mort de 6 d'entre eux, dont un Israélo-américain. À une question de la presse qui lui demandait à son arrivée à la Maison-Blanche si Benjamin Netanyahu en faisait assez pour obtenir un accord, Biden a répondu non. Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar poussent depuis des mois à un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Une grève nationale, inégalement suivie, a commencé lundi en Israël afin d'augmenter la pression sur le Premier ministre pour qu'il ramène les otages en vie. Ce lundi, des milliers d'Israéliens sont à nouveau descendus dans la rue au lendemain de manifestations massives dans plusieurs villes du pays pour réclamer le retour des otages. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui accusé le Hamas d'être responsable de l'échec des négociations.
Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité lundi de l'accélération de l'avancée de son armée dans l'est de l'Ukraine, preuve selon lui que l'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk lancée début août est vouée à l'échec. L'Ukraine a, elle, essayé, ou plutôt essuyé dans la nuit, une nouvelle attaque massive de missiles et de drones, notamment contre la capitale Kiev, qui a fait au moins 3 blessés et endommagé un centre culturel islamique, selon les autorités. Place à la Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Alexandrine Pologon.
La Chine accueille à partir de ce lundi des dirigeants de toute l'Afrique pour le Forum de la coopération Chine-Afrique, destiné à approfondir les liens avec ce continent où les importants prêts de Pékin ont permis la construction d'innombrables infrastructures. La Chine a envoyé ces 2 dernières décennies des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique pour construire ses grands projets et gagner un accès privilégié aux vastes ressources naturelles africaines, notamment le cuivre, l'or et le lithium. La raffinerie nigériane Dangote Oil Refinery a commencé à traiter de l'essence après les retards causés par les récentes pénuries de brut. Avec une capacité de 650 000 barils par jour, la raffinerie de 20 milliards de dollars construite par le milliardaire nigérian Aliko Dangote promet de réduire la dépendance coûteuse du Nigeria producteur de pétrole à l'égard des produits pétroliers importés. Les exportations de pétrole dans les principaux ports libyens ont été interrompues ce lundi et la production réduite dans tout le pays. La production pétrolière de la Libye a chuté de plus de la moitié par rapport au niveau habituel depuis le mois dernier, lorsque les factions occidentales ont décidé d'évincer le gouverneur de la Banque centrale de Libye, Sadiq al-Kabir, et de le remplacer par un conseil d'administration rival.
À présent, c'est l'heure des sports et c'est avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Suite des Jeux paralympiques avec un dimanche en or pour l'Afrique.
Oui, 3 médailles d'or. D'abord le lancer du poids F53 hommes remporté par le Marocain Abdelila Ghani. En athlétisme, le Sud-Africain Mlongo Mpumelo s'est imposé sur le 100 mètres T44 en 11 secondes 12 centièmes et l'Algérien Jamil Atami en T3 avec un chrono de 10 secondes 42. L'Algérie a remporté une autre médaille hier grâce à Linda Amri qui s'est offert le bronze à l'issue de la finale du saut en longueur T12. Même médaille pour Guillaume Junior Atangana, issu de l'équipe olympique des réfugiés, qui finit troisième de la course des 400 mètres T11.
Le tournoi paralympique de Cécifoot a aussi commencé hier.
Avec la participation de 8 équipes réparties dans 2 groupes de 4 avec le seul pays africain en lice, le Maroc. Après avoir fait un match nul blanc devant l'Argentine, les Lions de l'Atlas ont battu le Japon sur le fil 1-0 ce lundi et feront face demain à la Colombie. Autre match au programme toujours aujourd'hui, Colombie-Argentine, Turquie-Chine et France-Brésil.
Dans le reste de l'actualité sportive, le football avec les qualifiés pour la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF.
Les Marocaines de l'AS FAR ont décroché le seul ticket de la zone UNAF pour la 4e année de suite après avoir battu 1-0 les Égyptiennes de Toutankhamon. Les filles militaires de Rabat sacré en 2022 rejoignent ainsi les Sénégalaises des Aigles de la Médina, les Nigérianes d'Edo Queens, les Congolaises du tout-puissant Mazembe et les Éthiopiennes de Commercial Bank ainsi que les Sud-Africains de l'Université du Cap Occidental. Reste à désigner le pays qui va abriter cette 4e phase finale et ce sera le 10 octobre prochain à Kinshasa.
Enfin, Yacouba en Europe, Mohamed Salah réussit un début de saison phénoménal.
L'international égyptien a encore brillé hier après avoir marqué et offert 2 passes décisives lors de la victoire 3-0 de Liverpool sur Manchester United. Pourtant, sa situation contractuelle à Liverpool reste à éclaircir, lui qui joue en principe pour sa dernière année de contrat. Il n'y a pas de contrat, donc je me suis dit « Ok, je joue ma dernière saison et je verrai à la fin de la saison », a déclaré Mo Salah à Sky Sport. En juillet 2022, Salah a signé un nouveau contrat de 3 ans qui fait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club avec environ 460 000 dollars par semaine. Liverpool aurait rejeté l'an dernier une offre de 150 millions de livres sterling de la part du club saoudien Al-Ittihad pour Salah. L'Égyptien a marqué 214 buts pour Liverpool depuis son arrivée en 2017. ce qui le place au 5e rang des meilleurs buteurs de l'histoire du club.
Merci Yakuba. Vous êtes sur VO Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par John Linden. Place à présent au dossier du jour et on commence par le Ghana. De nouvelles recherches indiquent que les agriculteurs sont susceptibles d'augmenter considérablement leurs profits avec une simple paire de lunettes pour corriger tout défaut visuel. Mais des millions de personnes à travers le monde n'ont pas accès à ces soins de santé oculaire. Henri Richwell nous propose ce reportage. Le récit est de Jacques Aristide.
La culture du cacao est une tâche complexe. Les agriculteurs effectuent la pollinisation des plantes à la main en transférant de minuscules grains de pollen à des fleurs mâles aux fleurs femelles. Pendant des années, Juliette Adahi, 63 ans, propriétaire d'une plantation de cacao au Ghana, souffre d'un trouble de la vue qui lui fait voir flou.
C'était difficile de travailler dans ma ferme, de faire la pollinisation, de faire l'élevage.
Avec l'aide de l'association caritative américaine Vision Spring, Juliette a obtenu des lunettes pour l'aider à surmonter son trouble de la vision. Elle dit que cela a totalement changé ses journées de travail.
Avant de porter des lunettes, je pouvais obtenir 8 à 9 sacs de cacao par an, mais avec les lunettes que j'ai maintenant, je peux travailler au champ et obtenir 12 sacs. Cela a donc vraiment amélioré mes moyens de subsistance.
Vision Spring affirme que la moitié des producteurs de cacao de la région d'Asanti au Ghana ont besoin de lunettes pour corriger leurs défauts de la vue. Une recherche menée au Bangladesh par l'ONG et l'Université Queen's de Belfast a montré que les lunettes peuvent augmenter d'un tiers les revenus des travailleurs ruraux d'une moyenne d'un peu plus de $35 américains par mois à plus de $47. Les lunettes elles-mêmes coûtent environ $6.
Un investissement très modeste dans la correction de la vue pour les agriculteurs, les artisans et les gens de métiers qualifiés génère un retour sur investissement assez massif en termes de revenus familiales qu'ils sont en mesure de continuer à gagner. C'est l'un des rares moyens d'aide sur le plan du développement international qui peut être mis en œuvre pour augmenter les revenus des communautés agricoles et qui n'a pas encore été utilisé.
La productrice de cacao ghanéenne, Juliette Adahi, affirme que le revenu supplémentaire a aidé à payer l'éducation des membres de sa famille, ce qui les aide à augmenter leurs revenus futurs. La recherche a été publiée dans la revue PLOS ONE.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet.
Ici aux États-Unis, certaines familles de militaires morts au front, appelés Gold Star, ont exprimé dimanche leur soutien à l'ancien président Donald Trump après qu'il a été critiqué pour avoir pris des photos et des vidéos dans une section restreinte du cimetière national d'Arlington la semaine dernière. La vice-présidente Kamala Harris s'est jointe à ceux qui ont condamné la visite de Trump et l'ont qualifié de coup d'éclat politique. C'est un reportage de Véronique Balderas Iglesias de la VOA, un récit de Blanche Sanou.
La candidate démocrate à l'élection présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris, s'est jointe aux critiques visant la campagne Trump. Les activités politiques dans cette section du cimetière sont strictement interdites par la loi fédérale et le règlement du Pentagone, ce qui a donné lieu à une altercation avec un employé du cimetière. Samedi, Kamala Harris a abordé la question dans un message sur la plateforme X.
Je vais être clair, l'ancien président a manqué de respect à un lieu sacré, tout cela pour un coup politique.
Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, s'est encore défendu samedi, affirmant qu'il était là-bas à l'invitation de parents de soldats morts dans une attaque terroriste pendant le retrait américain de l'Afghanistan en 2021.
Ils m'ont dit, vous savez, je ne suis pas surpris, je n'y avais jamais pensé. Monsieur, serait-il possible d'avoir une photo avec vous sur la pierre tombale de mon fils? J'ai répondu par l'affirmatif. Je ne le faisais pas pour... Je n'ai pas besoin de publicité. J'ai beaucoup de publicité.
La campagne de Trump a publié une déclaration et des clips vidéo dimanche par certaines familles Gold Star soutenant sa visite. Le sénateur républicain Lindsey Graham a été interrogé sur l'émission This Week d'ABC pour savoir s'il pensait que la campagne de Trump avait dépassé les bornes.
Je suis tout à fait d'accord pour que l'on examine ce qui s'est passé. Mais vous savez, ce qui est vraiment regrettable, c'est que ces familles aient dû aller rendre visite à leurs proches tombés au combat à Arlington à cause de l'incompétence de l'administration Biden. Si l'on ajoute à cela la montée du terrorisme et la rupture des frontières, un autre 11 septembre nous attend.
Lorsqu'il s'agit de sécuriser la frontière, la vision de Kamala Harris serait la plus efficace, a déclaré le gouverneur du Colorado, Garrett Polis. On lui a demandé de préciser si elle inclurait la construction du mur et comment elle se compare à l'approche de Trump. Le démocrate Garrett Polis était également dimanche sur ABC.
Le mur frontalier proposé par Donald Trump est un énorme gâchis et un gaspillage de l'argent des contribuables. Il a effectivement parlé d'un mur sur l'ensemble de la frontière plutôt que d'utiliser des barrières de différentes sortes de manière efficace. Ce que Kamala Harris préconise, c'est de sécuriser la frontière de la manière la moins coûteuse possible.
Mardi, la campagne de Harris lancera la tournée de bus pour la protection des droits reproductifs, dont le coup d'envoi sera donné à Palm Beach, en Floride. La campagne Trump-Vance organisera des événements mardi à Bristleton, en Géorgie, et à Mesa, en Arizona.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Les migrants qui affluent à la frontière sud des États-Unis font face à plusieurs écueils. Dans le désert de l'Arizona en particulier, le manque d'eau peut être mortel. Mais une bonne samaritaine, Diane Noonan-Potas, tient à la disposition des arrivants des cuvées d'eau pour étancher leur soif. Et cela à travers une association de volontaires. Jean-Roger Billon nous en dit plus.
Human Borders est l'une des nombreuses organisations de l'Arizona qui fournissent des points d'eau aux migrants pour se désaltérer. Elle a été fondée à l'été 2000 pour sauver des vies dans la chaleur brutale de l'été. Et ça, c'est le boulot de Diane Noonan-Potas, 55 ans. Elle fait partie d'un réseau de bénévoles qui s'efforce de prévenir les décès dans le désert où de nombreux demandeurs d'asile et migrants ont perdu la vie.
Je me souviens d'une fois où il y avait un groupe de 300 personnes quand cette grande vague de demandeurs d'asile a commencé à arriver. Nous n'avions pas de camp à ce moment-là. Nous n'étions pas préparés à accueillir 300 personnes. Un jeune garçon, Felipe, était en train de mourir dans les bras de sa mère. Nous avons pu contacter le 911 et la police des frontières. Un hélicoptère est venu le chercher et il a survécu. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital de Tucson.
Chaque samedi avant l'aube, Diane Noonan-Potas arrive au bureau de Human Borders à Tucson, en Arizona, pour charger des fournitures dans un camion équipé de 200 à 300 gallons d'eau, de générateurs et de tuyaux d'arrosage. À contre-courant de ses efforts pour aider ces migrants, les ONG ont du mal à comprendre la chasse à l'homme contre ces gens, pour la plupart désespérés. Les gardes frontières américains ont arrêté environ 57 000 migrants traversant illégalement au mois de juillet. Dan Lehner, qui travaille avec Salva Vision et Tucson Samaritans, fait écho au profond impact émotionnel que ce travail entraîne.
C'est comme si quelqu'un vous arrachait le cœur. Oui, c'est une honte. Surtout quand on sait que mon peuple est directement impliqué dans cette affaire et qu'il l'est depuis longtemps. Et vous savez, c'est difficile. C'est difficile de comprendre que j'appartiens à ce genre de groupe de personnes.
En dépit des obstacles et des difficultés, Diane Noonan-Potas n'a pas le cœur à abandonner dans son soutien aux migrants. Le nombre de migrants arrêtés a chuté depuis que le président Joe Biden a émis de nouvelles restrictions aux frontières en juin. Mais Noonan estime que les politiques récentes ne sont qu'une solution rapide à un problème à long terme.
Ce que nous faisons, c'est de soulager dans l'immédiat. Nous adorons apaiser. C'est une aide temporaire, mais tout le processus nécessite ce que j'appellerais une chirurgie reconstructive. Chaque jour, je me réveille sachant que nous allons panser quelqu'un. Si je fais de la randonnée sur des sentiers en cherchant des gens, ou si je suis près du mur. Mais ce n'est pas la solution.
Aux États-Unis, l'immigration et la question de la sécurité à la frontière sud seront au cœur de la présidentielle de novembre prochain.
Après la découverte des corps des 6 otages israéliens tués dans un tunnel du sud de la bande de Gaza, les Israéliens ont réagi avec stupeur et colère. Certains reprochent au gouvernement israélien de ne pas avoir conclu plus tôt un accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Le principal syndicat israélien a annoncé une grève générale à partir de ce lundi jusqu'à ce que le gouvernement signe un accord. Voyons cela dans ce reportage de Linda Greinstein à Jérusalem pour la VOA, un récit de Thierry Kaoré.
Quelques jours à peine après que les familles ont essayé de communiquer avec les otages via haut-parleur à la frontière entre Israël et Gaza, l'armée israélienne a annoncé que 6 otages avaient été retrouvés dans un tunnel au sud de Gaza. Parmi les otages assassinés figurait Hersh Goldberg Polin, qui possédait la double nationalité américaine et israélienne. Daniel Lagari, porte-parole des forces de défense israéliennes.
Ils ont été cruellement assassinés par des terroristes du Hamas peu avant qu'on ne puisse les secourir. Ils ont été enlevés vivants le matin du 7 octobre par l'organisation terroriste du Hamas. Leurs corps ont été retrouvés lors du combat à Rafah dans un tunnel souterrain à environ 1 kilomètre du tunnel dans lequel nous avons sauvé Farah Al-Kadi il y a quelques jours.
La presse israélienne affirme que le sauvetage a peut-être incité le Hamas à tuer les 6 otages, craignant que les soldats israéliens ne se rapprochent. Il a été également rapporté que 3 des 6 otages tués, dont Goldberg Polen et 2 femmes, devaient être libérés pour des raisons humanitaires dans le cadre de la première phase d'un cessez-le-feu. Lors des manifestations de masse organisées dans tout le pays, les protestateurs ont affirmé que le gouvernement sabotait l'accord de libération des otages en faveur du maintien d'une présence militaire le long de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Cette décision politique a été confirmée par les ministres du gouvernement il y a quelques jours et, selon la presse israélienne, le premier ministre Benjamin Netanyahou a reconnu que leur décision signifiait probablement l'échec des négociations sur l'accord de libération des otages. Mais après l'assassinat des 6 otages, M. Netanyahou a accusé le Hamas d'être responsable de l'absence d'accord sur les otages.
Ces jours-ci, alors qu'Israël mène des négociations intensives avec des médiateurs pour parvenir à un accord, le Hamas continue de refuser fermement toute proposition. Quiconque assassine des personnes enlevées ne veut pas d'un accord.
Les sondages montrent qu'une majorité du public israélien soutient un accord de cessez-le-feu comme le seul moyen de libérer les otages, même si le Hamas n'est pas complètement détruit, selon Gerson Baskin, un négociateur israélien de longue date avec le Hamas.
La pression militaire n'a pas permis de libérer les otages. 8 otages ont été sauvés lors d'opérations. Il y a encore 100 otages à Gaza. Si nous avons appris quelque chose, c'est que la pression militaire ne les sauvera pas. La pression militaire les tuera.
Ce lundi, malgré la veille demandant la fin de la trêve générale lancée dans la matinée, des milliers de personnes sont encore descendues dans la rue pour mettre la pression sur le gouvernement en vue d'obtenir la libération des otages.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Et c'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise à nom de par Georges Léonard Sagnot. Présentation John Lydon. Merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité continue sur notre page Facebook et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.